Chapitre 6. Visite à l'hôpital. Le coffre-fort. Stantonville. La soif de l'or. Monsieur Bodditch rentre chez lui. 1. Monsieur Bodditch et moi, on eut une sacrée conversation pendant que son compagnon de chambre était dans la salle commune en train de regarder le match entre les White Sox et les Tigers avec un moniteur cardiaque sanglé sur la poitrine.
Il a des ennuis de palpitants qu'il n'arrive pas à soigner, m'expliqua-t-il. Dieu merci, je n'ai pas ce genre de problème. J'en ai suffisamment comme ça.
Il me montra qu'il pouvait se rendre seul aux toilettes, en prenant appui sur ses béquilles. Manifestement, il en bavait. Et quand il revint après avoir vidé sa vessie, il avait le front couvert de sueur. Néanmoins, j'y voyais un motif de satisfaction. Il aurait certainement besoin de l'urinal avec son long col sinistre pour les envies nocturnes, mais on pourrait peut-être se passer du bassin. Du moment qu'il ne tombait pas en pleine nuit et ne se cassait pas la jambe encore une fois, je voyais les muscles de ses bras décharnés trembler à chaque pas saccadé. Il s'assit sur le lit en poussant un soupir de soulagement.
« Tu peux me donner un coup de main avec ?»
Il montra la quincaillerie qui emprisonnait sa jambe. Je soulevai la jambe équipée du fixateur et lorsqu'elle se retrouva étendue sur le lit, il soupira de nouveau et réclama les deux comprimés qui se trouvaient dans un gobelet en carton sur la table de chevet. Je les lui donnai, versai un peu d'eau du bro et il les avala. Sa pomme d'Adam montait et descendait dans son cou ridé tel un singe sur une branche.
Ils m'ont retiré la pompe à morphine pour me donner ça. De l'oxycodone. Le médecin dit que je vais devenir accro, si je ne le suis pas déjà, et que je devrais me désintoxiquer ensuite. Pour le moment, le marché me semble équitable. Rien que pour aller aux toilettes, j'ai l'impression de courir un putain de marathon.
Je m'en étais aperçu. Et chez lui, les toilettes étaient encore plus éloignées du canapé convertible. Alors, peut-être qu'on aurait besoin du bassin, finalement, ne serait-ce qu'au début. J'allais dans le cabinet de toilette, mouillais un gant et l'essorais. Lorsque je me penchai vers lui, il eut un mouvement de recul.
Hey, qu'est-ce que tu fabriques ?
J'essuie la sueur. Ne bougez pas. Dans une relation, on ne sait jamais quels sont les instants qui marquent un tournant. C'est plus tard seulement que je découvris que celui-ci en était un. Pour lui et moi. Au bout d'un moment, il se détendit un peu et m'autorisa à lui essuyer le front et les joues.
J'ai l'impression d'être un putain de bébé.
Vous me payez, alors laissez-moi gagner mon putain de fric. Je réussis à le faire rire. Une infirmière glissa la tête à l'intérieur de la chambre pour savoir s'il avait besoin de quelque chose. Non, dit-il, et dès qu'elle fut repartie, il me demanda de fermer la porte.
C'est là que je te demande de te battre pour moi, jusqu'à ce que je puisse le faire moi-même, et pour Radar aussi. Tu te sens prêt, Charlie ?
Je ferai de mon mieux.
Oui, peut-être. Et je ne peux pas t'en demander plus. Je ne te mettrais pas dans cette situation si j'avais le choix. Une femme nommée... Ravensburger est venu me voir. Tu l'as déjà rencontré ?
Je lui dis que oui.
Tu parles d'un nom. J'essaie d'imaginer un burger à la viande de corbeau et ça me laisse perplexe.
Je ne dirais pas qu'il était défoncé à l'oxy, mais je ne dirais pas le contraire non plus. Maigre comme il était, plus d'1,80 m pour moins de 70 kg sans doute, ses petits cachets roses devaient lui flanquer un sacré coup derrière la tête.
Elle voulait me parler de ce qu'elle a appelé mes options de paiement. Je lui demandais à combien s'élevaient les dégâts jusqu'à présent et elle m'a donné une facture. Elle est là, dans le tiroir.
Il montra la table de chevet.
Mais ne t'occupe pas de ça pour le moment. C'est pas donné, je lui ai dit. Et elle m'a répondu, les bons traitements coûtent cher, monsieur Bodditch, et vous avez eu droit à ce qu'il y a de mieux. Elle m'a dit que si je souhaitais consulter un spécialiste du financement, ne me demande pas ce que ça signifie au juste, elle se ferait un plaisir d'organiser un rendez-vous avant que je quitte l'hôpital ou après mon retour chez moi. Je lui ai répondu que ça ne serait pas nécessaire. que je pouvais payer la totalité, mais uniquement si j'obtenais une ristourne. Là, on a commencé à marchander. Finalement, on s'est mis d'accord sur une réduction de 20%, ce qui fait un rabais d'environ 19 000 $.
Je laissai échapper un sifflement. Monsieur Bodich sourit.
J'ai essayé de la faire descendre jusqu'à 25%, mais elle est restée fixée sur 20. À mon avis, c'est la norme industrielle. Car l'hôpital est une industrie, au cas où tu ne le saurais pas. Les hôpitaux et les prisons gèrent leur business plus ou moins de la même manière, à la différence que, dans le cas des prisons, c'est le contribuable qui paie la facture à l'arrivée.
Il passa sa main devant ses yeux.
J'aurais pu payer l'intégralité, mais j'ai pris plaisir à marchander. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu l'occasion. Jadis, je faisais les vide-greniers. J'aime les choses anciennes. Est-ce que je divague ? Oui, bref, je peux payer la note, mais pour ça, j'ai besoin de toi.
Si vous pensez à l'argent qui est dans la boîte de farine, son geste semblait indiquer que 8 000 $, c'était des broutilles. Et en effet, à côté de la facture de l'hôpital, ça l'était.
Voici ce que je veux que tu fasses.
Quand il eut terminé, il me demanda si j'avais besoin de noter.
Ça ne m'embête pas, dit-il, du moment que tu déchires tout ensuite.
Juste la combinaison du coffre, peut-être. Je la noterai sur mon bras et je l'effacerai ensuite.
Tu veux bien faire ça pour moi, alors ?
Oui. Je ne m'imaginais pas refuser, ne serait-ce que pour vérifier si tout ce qu'il disait était vrai.
Parfait. Répète-moi toutes les étapes.
Je m'exécutais. Après quoi, j'utilisais le stylo posé sur la table de chevet pour écrire sur mon biceps une série de chiffres et de sens de rotation. Il serait caché par la manche de mon t-shirt.
Merci, dit-il. Tu devras attendre demain pour voir Monsieur Heinrich. Mais tu peux te préparer dès ce soir, quand tu auras nourri Radar.
Ok, dis-je. Je lui souhaitais bonne nuit et m'en allais. J'étais baba, pour reprendre l'expression de mon père. À mi-chemin de l'ascenseur, je repensais à quelque chose et fis demi-tour.
Tu as changé d'avis ?
Il souriait, mais l'inquiétude se lisait dans son regard. Non, je voulais juste vous poser une question au sujet d'un truc que vous avez dit l'autre jour.
Quoi donc ?
Une histoire de cadeau. Vous avez dit qu'un homme courageux offrait son aide et un lâche offrait des cadeaux.
Je ne m'en souviens pas.
Si ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Je ne sais pas. C'est sûrement les pilules qui parlaient à ma place.
Il mentait. J'avais vécu avec un alcoolique pendant plusieurs années et je savais reconnaître un mensonge quand j'en entendais un. 2. Je retournais à Sycamore Street sur mon vélo. Il ne serait pas exagéré de dire que j'étais ivre de curiosité. Je déverrouillais la porte de derrière et acceptais l'accueil exubérant de Radar. Elle parvenait à se dresser sur ses pattes arrière pour recevoir des caresses et j'en déduisis que les nouveaux cachets étaient puissants. Je la laissais sortir dans le jardin pour qu'elle fasse ses petites affaires et l'encourageais mentalement. « Dépêche-toi de trouver un endroit. » Dès qu'elle rentra dans la maison, je montai dans la chambre de Monsieur Bodich et ouvris l'armoire. Il possédait tout un tas de vêtements, essentiellement des trucs décontractés, style chemise en flanelle et pantalon de toile, mais aussi deux costumes, un noir et un gris, semblables à ceux que portaient George Raft et Edward G. Robinson dans des films comme « À chaque aube, je meurs », veste croisée et épaules larges. J'écartais les vêtements suspendus pour laisser apparaître un coffre-fort Watchman, un vieux modèle d'environ 1 mètre de haut. Je m'accroupis, et au moment où je tendais la main vers la molette, je sentis quelque chose de froid dans le bas du dos, là où mon t-shirt était sorti de mon pantalon. Je poussai un cri et me retournai brusquement pour découvrir Radar qui remuait la queue. Cette chose froide, c'était sa truffe. « Ah non, fais pas ça, fifille !» Elle s'assit avec un grand sourire et l'air de dire qu'elle ferait ce qu'elle voulait. Je me retournai vers le coffre. Je me trompais dans la combinaison à mon premier essai, mais le second fut le bon. La porte s'ouvrit. Ce qui me sauta aux yeux, ce fut l'arme posée sur l'unique étagère du coffre.
plus grosse que celle que mon père confiait à ma mère quand il devait s'absenter plusieurs jours, et même toute une semaine une fois pour un séminaire d'entreprise. C'était un revolver calibre 32, une arme de femme. Je devinais qu'il l'avait toujours, mais n'en étais pas sûr. À l'époque où il picolait méchamment, je l'avais cherché dans la maison sans jamais réussir à mettre la main dessus. Ce flingue, un revolver, était plus gros. Sans doute un calibre 45. Et, comme presque tout ce que possédait M. Bowditch, il ressemblait à une antiquité. Je le pris, délicatement, et trouvai le poussoir qui libérait le barillet. Les six chambres étaient chargées. Je refermai le barillet et reposai le revolver. Compte tenu de ce qu'il m'avait raconté, la présence de cette arme s'expliquait. Une alarme aurait été plus appropriée, sans doute, mais il ne voulait pas voir la police débarquer au 1 Sycamore Street. En outre, dans le temps, Radar offrait une protection très efficace contre les cambrioleurs, à en croire Andy Chen. Sur le plancher du coffre, je trouvais ce que M. Bowditch m'avait décrit. Un gros seau en métal sur lequel était posé un sac à dos. Je soulevai le sac et découvris que le seau était rempli presque à ras-bord de ces plombs de carabine à air comprimé qui étaient en réalité des pépites d'or massif. Le seau était muni de deux anses. Dans ma position accroupie, j'eus un mal fou à le déplacer. Il contenait au moins 20 kilos d'or, peut-être même 25. Je m'assis par terre et me retournai vers Radar. La vache, il y en a pour une putain de fortune! Elle frappa le sol avec sa queue. 3. Ce soir-là, après avoir nourri Radar, je montai voir le seau d'or pour m'assurer que je n'avais pas rêvé. Quand je rentrais chez moi, papa me demanda si j'étais prêt à accueillir M. Bowditch. « Oui, dis-je, mais j'avais encore des choses à faire avant son arrivée. »« Tu es toujours d'accord pour me prêter ta perceuse et ton tournevis ?»«
Bien sûr, et je serais venu avec plaisir te donner un coup de main, comme je te l'ai dit, mais j'ai un rendez-vous à 9h. C'est au sujet de cet incendie dont je t'ai parlé, dans un appartement. Il se pourrait que ce soit un acte criminel. »«
Je vais me débrouiller. »«
J'espère. Tout va bien ?»«
Oui, pourquoi ?»
Tu m'as l'air un peu nerveux. Tu t'inquiètes à cause de demain ?
Oui, un peu.
Je ne mentais pas. Vous vous demandez peut-être si j'éprouvais le besoin de parler à mon père de ce que j'avais découvert. Eh bien non. D'une part, M. Bowditch m'avait fait jurer de garder le secret. Et d'autre part, il affirmait que cet or n'avait pas été volé au sens où on l'entend. C'était la deuxième raison. Je lui avais demandé ce que ça voulait dire, mais il m'avait simplement répondu que personne sur Terre ne cherchait cet or. Jusqu'à plus ample informé, j'étais disposé à le croire sur parole. Mais ce n'était pas tout. J'avais 17 ans, et c'était le truc le plus excitant qui m'était jamais arrivé. De loin, je voulais en profiter. 4. Le lundi, de bon matin, j'enfourchai mon vélo et me rendis chez M. Bowditch pour nourrir Radar, qui ne me quitta pas des yeux une seule seconde pendant que j'installais les barres d'appui. L'accès à la cuvette des toilettes n'était pas aisé dans la minuscule salle de bain, et les barres d'appui ne faciliteraient pas l'opération. Néanmoins, cela me paraissait être une bonne chose. Je m'attendais à des récriminations, mais au moins, il ne risquait pas de tomber. Par ailleurs, il pourrait se tenir au poignet pendant qu'il urinait. Encore un plus. Je vérifiais qu'elles étaient solidement vissées.
« Qu'est-ce que tu en penses, Radar ? C'est bien ?»
Elle frappa le sol avec sa queue.
« Tu pourras peser l'or avec ma balance de salle de bain ?»
m'avait dit M. Bowditch lors de notre conversation.
« Ça ne sera pas très précis, mais avec une balance de cuisine, ça prendra des siècles. Je parle par expérience. Sers-toi du sac à dos pour le pesage et le transport. N'hésite pas à en rajouter un peu. » Heinrich pèsera l'or lui-même sur une balance plus précise, numérique.
Il détacha les syllabes de ce mot pour lui donner un aspect à la fois idiot et prétentieux. Comment vous faites pour lui apporter l'or quand vous avez besoin d'argent liquide ? Stantonville se trouvait à 10 kilomètres.
Je prends un Uber. C'est Heinrich qui paie.
Je ne compris pas tout de suite.
Qu'est-ce qui te fait sourire, Charlie ?
Rien. Vous faites ça la nuit ? Il hocha la tête.
Vers 10h, généralement, quand la plupart des habitants du quartier sont bien au chaud chez eux. Surtout Madame Richland, la voisine d'en face, une sacrée fouineuse.
Oui, vous me l'avez déjà dit.
Mais je te le répète.
J'avais eu la même impression.
Je ne pense pas être le seul client nocturne de Heinrich, mais il a accepté de baisser son rideau de fer demain matin pour que tu puisses y aller entre 9h30 et 10h. Je n'ai jamais effectué une transaction aussi importante avec lui. Je suis sûr que tout se passera bien. Il a toujours été réglo avec moi. Mais il y a un revolver dans le coffre, et si tu veux l'emporter pour te protéger, tu n'y vois pas d'inconvénient.
Je n'avais aucune intention de prendre ce revolver. Je sais que certaines personnes se sentent plus fortes avec une arme, mais je n'en fais pas partie. Rien que de la toucher, ça me fichait la trouille. Si vous m'aviez dit que dans un futur proche, je me trimballerais avec, je vous aurais traité de fou. Je trouvais une louche dans le cellier avant de monter. J'avais effacé la combinaison inscrite sur mon bras après l'avoir enregistrée dans mon téléphone dans une note protégée par un mot de passe. Mais je n'eus même pas besoin de la consulter. Le coffre s'ouvrit du premier coup. J'ôtai le sac à dos qui couvrait le seau et demeurai fasciné, une fois de plus, par tout cet or. Incapable de résister, j'y plongeai les mains jusqu'au poignet et fis couler les pépites entre mes doigts. Je recommençai. Et une troisième fois, cela avait quelque chose d'hypnotique. Je secouai la tête pour reprendre mes esprits et entrepris de transvaser l'or dans le sac à dos. Je le pesais. La balance indiquait un peu plus d'un kilo et demi. J'ajoutais une louche d'or et montais jusqu'à 2,5 kilos. Après le troisième essai, l'aiguille s'arrêta sur 3,2 kilos. J'estimais que c'était bien. Si la balance numérique de M. Heinrich indiquait un poids supérieur aux 3 kilos convenus, je rapporterais le surplus. J'avais encore du travail avant le retour de M. Boditch. Je me rappelais que je devais trouver une clochette qu'il pourrait agiter la nuit en cas de besoin. Les soins à domicile pour les nuls suggéraient d'utiliser un babyphone, mais je devinais que M. Boditch préférerait quelque chose de plus old school. Je lui avais demandé combien valait 3 kilos d'or, partagé entre l'envie de savoir et de ne pas savoir quelle somme d'argent j'allais transporter sur mon dos pour parcourir 10 kilomètres à vélo dans une zone principalement rurale jusqu'à Stantonville. La dernière fois qu'il s'était renseigné auprès du Gold Price Group, au Texas, l'or valait environ 15 000 $ la livre.
« Mais je la lui laisse à 14. C'est le prix sur lequel on s'est mis d'accord. Donc, il y en a pour 84 000 $ au total. Mais il te fera un chèque de 74 000. De quoi payer l'hôpital, plus un petit quelque chose pour moi et un joli bénéf pour lui. »
« Joli » était un euphémisme. J'ignorais quand M. Boditch avait consulté le Gold Price Group pour la dernière fois, mais par rapport au cours de l'or fin avril 2013, il était très en dessous. Le dimanche soir, avant de me coucher, j'avais consulté les chiffres sur mon ordi. L'or se vendait maintenant à plus de 1 200 $ l'once, ce qui faisait environ 20 000 $ la livre. 3 kilos d'or valaient donc 115 000 $ sur le marché de Zurich. Conclusion, ce Heinrich allait empocher 40 000 $. Et l'or, ce n'était pas comme des diamants volés qui permettaient à l'acheteur de faire baisser les prix à cause des risques encourus. Les pépites n'étaient pas marquées. Elles étaient anonymes et pouvaient facilement être fondues pour fabriquer de petits lingots ou transformées en bijoux. J'avais failli appeler M. Boditch à l'hôpital pour l'informer qu'il se faisait avoir, mais je m'étais ravisé. Pour la simple raison qu'à mon avis, il s'en fichait. Et d'une certaine façon, je pouvais le comprendre. Même après avoir prélevé 3 kilos d'or dans le coffre au trésor du capitaine Kidd, il en restait encore plein. Ma tâche, même si M. Boditch ne l'avait pas formulé ainsi, c'était d'effectuer la transaction sans me faire détrousser. Une sacrée responsabilité. Et j'étais bien décidé à me montrer à la hauteur de la confiance qu'il plaçait en moi. Je fermais les sangles du sac à dos et vérifiais que je n'avais pas fait tomber des pépites sur le sol entre le coffre-fort et le pèse-personne. Je fis une longue caresse à Radar pour me porter chance et quittai la maison en emportant 115 000 $ dans un vieux sac à dos. Un sacré paquet de thunes, aurait dit mon vieil ami Bertie Bird.